France Inter, le 18-20.
Il est un des chroniqueurs politiques les plus célèbres. On l'a lu, on l'a vu, on l'a écouté depuis 50 ans. Le spectacle politique à la télévision, des interviews, des débats avec souvent l'imprévu du direct, il en est une des figures incontournables. C'est Alain Duhamel, notre invité dans Une semaine en France. Il publie ses souvenirs, journal d'un observateur aux éditions de l'Observatoire. Au sommaire encore, dans cette émission préparée par Irène Menahem, réalisée par Marianne Rimbaud avec Loïc Frapsos, Fabrice Desmaz et Tristan Gratalon, le clip de l'actualité de la semaine et puis les bonnes ondes de Sandrine ou d'un ce soir, une web radio faite par des sans-abri pour des sans-abri.
Pierre Veil, Une semaine en France.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus de 300 pages de souvenirs, c'est journal d'un observateur. Vos souvenirs de chroniqueurs politiques, vos contacts avec les grands noms de la politique française, mais aussi dans ce livre, une histoire de la Ve République de 1958 à nos jours. Alors, dans ce livre, on constate que vous êtes important pour les dirigeants de ce pays, puisque vous révélez que des présidents de la République vous téléphonaient souvent à des heures très différentes.
Oui, ça c'est certain. Valéry Giscard d'Estaing avait le téléphone matinal, c'est-à-dire qu'il appelait vers 7h du matin, persuadé que non seulement j'étais éveillé, habillé, etc., mais que j'avais déjà écouté les dernières informations. François Mitterrand, lui, il me téléphonait plus volontiers après mon éditorial à Europe 1.
Oui.
Et quelquefois, notamment quand il n'était pas content, il me disait « Venez prendre le petit déjeuner avec moi, on s'expliquera ». Il lui arrivait à ce moment-là, quand je parvenais dans la petite salle à manger où ça se passait, de me dire « Mais pourquoi êtes-vous là ?» Alors je lui rappelais que c'était lui qui m'avait appelé. Bon, Chirac m'appelait, en général quand il n'était pas content d'ailleurs, mais pas seulement, parce que je me rappelle, pendant sa dernière campagne présidentielle, il avait publié deux petits livres, qui étaient d'ailleurs écrits par Paul Guilbert, et j'avais fait un papier pour dire que c'était intéressant, inattendu, bien tourné. Et il m'avait, mais alors vraiment poursuivi jusqu'à ce qu'il me trouve. J'étais à un meeting à Marseille, je pense, pour me dire « Oh, merci, c'est formidable, vous êtes, etc. » Bon. Et puis,
en 2012, avant son débat face à François Hollande, Nicolas Sarkozy, avant le deuxième tour, donc, il vous téléphone. C'est quand même curieux, ça.
Oui, bah d'ailleurs, j'ai été étonné.
Mais il vous téléphonait pourquoi ?
Il me téléphonait une demi-heure avant le début du débat. Donc, il était déjà maquillé dans sa loge, etc. Je pense que, d'une certaine manière, il voulait un peu se sécuriser. Alors, évidemment, moi, j'ai rien dit. C'est lui qui parlait. Mais il m'a expliqué quel thème il comptait développer. Je me suis bien gardé de scander. Hein. Mais en même temps, j'étais très content de le savoir, parce que ça me permettait ensuite de suivre autrement le débat. Mais en même temps, évidemment, je me disais, pour qu'il me téléphone à moi, il n'avait pas de raison particulière, une demi-heure avant, il faut vraiment qu'il ait une forme d'anxiété.
Les débuts de votre passion pour la politique, Alain Duhamel, vous en parlez dans ce livre, vous racontez, vous évoquez une campagne législative de Pierre Mendès France fin 1955 et puis un discours du général de Gaulle le 4 septembre 1958 à Paris, place de la République, pour défendre la nouvelle constitution. Et vous êtes là, sur la place ?
Oui, j'étais jeune, évidemment, puisque j'avais 18 ans. Je m'étais levé à 6h du matin pour être sûr d'être bien placé, debout, hein, évidemment. Parce qu'il y avait d'un côté les invités, de l'autre côté la population. Mais du coup, j'étais vraiment devant. Et j'ai bénéficié totalement de la mise en scène incroyable, romaine. Hein. Vraiment, c'était Jules César. Et puis, de ce discours, qui était un discours historique, puisque c'est là qu'il a vraiment expliqué ce qu'il voulait faire avec les institutions, pourquoi il voulait le faire. Et je dois dire que, bien que je n'ai jamais été gaulliste, j'ai été vraiment impressionné par ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, quand j'ai pu voter, puisqu'à l'époque c'était à 21 ans, quand j'ai pu voter pour, par exemple, l'élection du président au suffrage universel, et je l'ai fait.
un chapitre dans votre livre formidable, Alain Duhamel et la télévision. La télévision n'est pas un long fleuve tranquille, c'est ce que vous écrivez. Alors la télévision et Alain Duhamel, il y a bien sûr Armes égales, c'est les années 70. Il y a le débat en 1974, le premier débat présidentiel avant le second tour. C'est du jamais vu. Valérie Giscard d'Estaing, François Mitterrand, vous êtes là avec Jacqueline Baudrier. Vous êtes des journalistes horloge. Hein, vous ne savez pas.
Ah bah c'est ce que je, c'est voilà, ce que je raconte d'ailleurs.
Prévu, hein.
En fait, ce qui a été bien, c'est qu'avec Michel Bassy, on est arrivé à monter cette émission. C'était la première fois. Et on l'a fait parce qu'on était obsédé évidemment par le fameux duel entre Kennedy et Nixon. On voulait faire la même chose. Bon, évidemment, il faut reconnaître que le résultat était très différent. Parce que le rôle des journalistes, comme on était demandeurs, évidemment, chacun des deux pouvait poser ses exigences. En réalité, on était là pour annoncer l'heure, veiller à l'équilibre du temps de parole, relancer les thèmes, mais surtout pas poser de questions. Bon, par la suite, ça s'est civilisé, heureusement.
Autre émission historique, c'est Cartes sur table, les années 80. Alors, Cartes sur table, je le rappelle, pour les plus jeunes, deux intervieweurs, vous, Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach,
oui.
Une petite table, et donc ceux qui posent des questions et celui qui répond, ils sont à portée de main. L'émission... Eh bien, elle avait son monstre sacré. Aujourd'hui, nous avons droit aux colères démesurées de Jean-Luc Mélenchon avec des attaques visant les journalistes. Mais avant lui, dans ce même registre, il y avait Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français dans les années 70 et 80. Georges Marchais, alors là, il y a des scènes d'anthologie à la télévision, notamment votre émission Cartes sur table. Vous la présentez avec Jean-Pierre Elkabbach. Et voilà comment Georges Marchais vous attaque personnellement, vous, Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach, lors d'une émission de 1981, avant la présidentielle. Marchais est candidat.
Voyez-vous, Alain Duhamel,
les nationalisations, par exemple.
Oui, mais moi, je n'aborderai pas la question comme vous, parce que c'est un échappatoire. Et tous, vous avez la même attitude. Les candidats des autres partis, les médias, vous avez le même comportement. Vous voulez une élection présidentielle à l'épreuve. Plus vous nous faites perdre de temps, moins je répondrai à vos questions. Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
Monsieur le candidat.
Vous voulez pas le changement, vous n'êtes pas intéressé au changement.
Monsieur le candidat,
n'êtes pas intéressé.
Nous voulons vous poser des questions selon les règles et les principes de l'émission que vous connaissez.
Mais vous avez l'un et l'autre une situation confortable, vous avez un travail assuré, vous êtes même les cumulards, un peu cumulards, parce que radio, télévision, dans la presse écrite, vous avez un bon revenu, peut-être êtes-vous sous le coup de ma proposition au-dessus de 4 millions, 100% d'impôts, je prends tout. Je comprends dans ces conditions que vous ne vouliez pas du changement. Mais figurez-vous que moi je veux le changement et que pour parler du changement, je veux d'abord analyser les causes de la crise que connaît notre pays.
Quel numéro de Georges Marchais. Jean-Pierre Elkabbach est un peu tendu, mais vous, alors, vous gardez le sourire pendant cette tirade.
Mais c'est-à-dire que Jean-Pierre Elkabbach et Georges Marchais avaient un lien particulier parce que c'était deux stars. Moi, je voulais pas du tout être une star, je voulais être un expert. C'est complètement différent. Et vis-à-vis de Marchais, j'ai toujours conservé le sourire parce que je le prenais quand même au second degré. C'était une bête de télévision incroyable. C'était le premier dirigeant communiste à avoir vraiment compris que le lieu principal de la lutte politique, c'était la télévision. C'était plus les manifestations, les discours à l'Assemblée nationale, etc. Et il faisait des numéros extraordinaires. Alors c'est vrai que dans ses relations avec les journalistes, encore qu'il était très cordial en dehors de l'émission. Ça, c'est différent de Mélenchon. Mais pendant les émissions, il se comportait comme Mélenchon se comporte. La seule chose, c'est que Mélenchon est, disons, plus cultivé et que Marchais était beaucoup plus drôle.
Alain Duhamel, rendez-vous traditionnel dans Une semaine en France. Un rapide retour sur l'actualité de la semaine. Un clip sonore mixé par Marie-Annick Rimbaud.
Alors, souvenez-vous de M. Marshall de Verdun.
La colère contre la hausse des prix des carburants a poursuivi Emmanuel Macron lors de son périple mémoriel sur les traces de la guerre de 14-18 dans l'Est et le Nord. Des cérémonies officielles du souvenir et des dialogues musclés avec les habitants rencontrés mardi.
Moi j'ai travaillé chez Lactalis, j'ai travaillé toute ma vie moi. Je n'ai jamais arrêté une journée,
Si vous m'avez entendu,
et aujourd'hui on me prend de l'argent.
Mais vous avez raison,
Monsieur le Président.
Vous êtes en colère parce que vous voulez qu'on connaisse ceux qui travaillent.
Et on y sera en colère le 17 aussi. Vous ne sentez pas de malaise en France?
France qui monte.
Je sens le malaise. Mais ah bon, si je veux apporter une vraie réponse, je suis obligé de changer les choses.
Vous étiez trop jeune, vous n'avez pas connu mes
soucis.
Vous étiez trop jeune.
Le geste qu'on va faire, c'est ceux qui doivent faire beaucoup de kilomètres pour se déplacer, pour aller travailler. C'est eux qu'il faut aider.
Mais vous avez redonné quoi, 20 euros?
Non, il y a déjà des régions qui ont commencé à accompagner. Il y a des systèmes type un peu indemnité kilométrique, donc on va accompagner quand le prix passe un certain niveau, vous voyez, quand ça dépasse un certain seuil.
Face à cette contestation qui monte, Emmanuel Macron promet donc des aides au transport. À l'Assemblée nationale, l'opposition parle de bricolage. Christian Jacob, président du groupe Les Républicains.
L'heure n'est plus aux gesticulations ou à l'invention de je ne sais quelle usine à gaz. La seule mesure compréhensible, c'est de baisser les taxes.
Cette visite mémorielle d'Emmanuel Macron, parasitée par la fronde contre les prix des carburants et par une autre polémique mercredi à Charleville-Mézières, il juge légitime d'honorer Philippe Pétain avec d'autres maréchaux de 14-18 lors d'une cérémonie aux Invalides dimanche.
Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà, c'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la deuxième.
Nombreuses protestations. Exemple, le député La France Insoumise, Alexis Corbière.
Non, on ne commémore pas celui qui a accepté que des Français de confession juive soient arrêtés et soient déportés. On ne commémore pas ça. On ne commémore pas celui qui a fait enlever les Mariannes de nos bâtiments. On ne commémore pas celui qui a fait disparaître la République. Non, non.
Et finalement, machine arrière, l'Élysée précise qu'il y a eu confusion, qu'il n'a jamais été question d'honorer Philippe Pétain aux Invalides. À Marseille, trois immeubles qui s'effondrent en plein cœur de la ville dans le quartier de Noailles. Indignation des habitants de ce secteur où l'on sait depuis longtemps que ces constructions sont vétustes et dangereuses.
Ce qui s'est passé là, on s'attendait, hein. Même chez nous, hein, regardez. C'est dans un état d'électricité à l'ancienne, des faux circuits, les compteurs qui ne fonctionnent presque plus. Tout est délabré. Des rats, des souris. On vit avec la peur tous les jours.
Il y a ma copine qui est sous les décombres. Tout ça, c'est parce qu'il laisse mourir la ville exprès. Vous voyez pas, il laisse mourir le quartier exprès. Ils le savent très bien que tous ces immeubles, ils peuvent se casser la gueule, quoi. Ils font rien.
Dans un lycée de Stain, en Seine-Saint-Denis, la nomination lundi d'un proviseur adjoint. Particularité, il est issu de la gendarmerie. Il est chargé de la sécurité de l'établissement. Les enseignants refusent cette nomination. Ils sont en grève. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ne comprend pas cette attitude.
C'est une action en réalité qui n'a rien de nouveau, qui était prévue depuis un certain temps, parce que est tout à fait normal que des personnes venues de différents secteurs de la fonction publique puissent exercer une seconde carrière dans l'éducation nationale. Deuxièmement, il serait paradoxal de se plaindre que nous mettions l'accent sur la sécurité dans un endroit où précisément il y a eu des craintes fortement exprimées ces derniers temps du fait de l'insécurité.
Alain Duhamel, que retenez-vous de ce résumé de l'actualité de la semaine ?
Bah écoutez, je vais pas parler de tout parce qu'il faut choisir. Je dirais que moi, ce qui me frappe, c'est dans la classe politique, parmi les élus, l'énorme hypocrisie, mais qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, de tous ceux qui disent pieusement il faut travailler pour la transition écologique, donc c'est très important de rapprocher le prix du diesel du prix de l'essence, etc. Et puis qui disent maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a un grand mécontentement à cause parce que les fins de mois sont difficiles pour une bonne partie des Français, qui maintenant disent « Ah ben, il faut baisser les taxes », c'est-à-dire le contraire. Et ça, je trouve que c'est assez moche. De même que ceux qui attaquent Macron, je trouve qu'il aurait mieux fait de ne pas parler du tout du maréchal Pétain. Bon, il l'a fait. Ceux qui l'attaquent en disant c'est scandaleux de rappeler qu'il a été un grand soldat, je veux dire, sont les mêmes qui sont gaullistes alors que le général de Gaulle l'a fait, qui sont socialistes alors que François Mitterrand l'a fait, qui sont giscardiens alors que Valéry Giscard d'Estaing l'a fait, qui sont sarkoziens alors que Nicolas Sarkozy a fait. Je veux dire, vraiment l'hypocrisie, c'est en plus c'est antipédagogique et je dirais au bout du compte c'est antidémocratique.
Alain Duhamel, Emmanuel Macron, il a passé quand même une mauvaise semaine lors de
pas
ce...
Pas mauvaise, détestable.
Détestable, il s'est fait engueuler, on peut le dire, par beaucoup de Français. Dans votre livre, Journal d'un observateur, vous parlez d'Emmanuel Macron et vous êtes admiratif, vous écrivez que son audace et sa détermination sont prodigieuses. Mais on a l'impression, là, aujourd'hui, que quelque chose ne fonctionne plus dans la présidence Macron. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Alors, d'abord, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit... pratiquement avant qu'il prenne ses fonctions. Bon, donc, je parlais en fait du candidat. Alors qu'il était d'une audace incroyable et d'une détermination incroyable, c'était la vérité. C'est comme ça qu'il a gagné, contre personne ne le pensait au départ. Donc, je ne retire pas du tout ce que j'ai dit, simplement, il s'agissait du candidat. Mais maintenant, bon, d'abord, au bout d'un an et demi, je crois que tout président sera désormais follement impopulaire. Parce que pendant les campagnes, on promet et que si on prend les mesures, le temps de toute façon qu'elles réussissent, si elles réussissent, je ne dis pas qu'elles réussiront, je n'en sais rien. J'espère qu'elles réussiront, mais je n'en sais rien. Mais en attendant, les gens sont frustrés, c'est une évidence. Et donc, on a ce mécontentement. En plus, il faut faire la part quand même de l'amplification extraordinaire, de la pression inouïe des réseaux sociaux et de l'information continue. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pas une seconde, un responsable politique ne peut se sentir susceptible d'être dans une bulle. Ça n'existe plus. Et alors, s'agissant d'Emmanuel Macron, moi, ce qui me frappe, c'est que les Français sont, quand ils s'adressent à lui, les Français en colère, totalement décomplexés. Ce matin, il le coupait au début de son discours, il l'apostrophe. Bon, il y a 10 ans, c'était absolument inimaginable. Et moi, je crois qu'il y a un double phénomène. D'une part, vis-à-vis de l'ensemble du monde politique, à commencer par le chef de l'État, un manque de considération et de respect, mais que je pense définitif pour quiconque sera à l'Élysée désormais. Et puis, d'autre part, une sorte aussi de match entre les interpellateurs, c'est-à-dire que celui qui agresse le président, ouais, on le voit à la télévision le soir, il devient la vedette pendant 24 heures, et le lendemain, il y en a un autre qui dit « mais moi, je vais faire encore plus ». Et je pense que ça va continuer, ça.
Je reviens à votre livre de souvenirs, Journal d'un observateur, avec, vous racontez dans cet ouvrage, un autre grand moment de télévision avec Alain Duhamel, mars 1981, avant la présidentielle, François Mitterrand est l'invité de Cartes sur table. L'émission se termine, présentée par vous et Jean-Pierre Elkabbach, et là, Alain Duhamel, vous posez votre dernière question à François Mitterrand. Alors écoutez bien, juste un rappel pour les plus jeunes, nous sommes en 1981, la peine de mort existe en France, 3 condamnés ont été guillotinés pendant cette présidence de Valéry Giscard d'Estaing qui se termine. Écoutez Alain Duhamel.
Monsieur Mitterrand, ça fait 1h20 que nous sommes ensemble, nous avons donc chacun une dernière question à vous poser. La mienne c'est celle-ci, il y a actuellement 5 condamnés à mort dans des cellules, je voudrais savoir si vous étiez élu président de la République, si vous les graciériez. Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Et je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationale et nationale. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort.
Donc vous le gracieriez?
Je ferai ce que j'aurai à faire dans le cadre d'une loi que j'estime excessive, c'est-à-dire régalienne, un pouvoir excessif donné à un seul homme, disposer de la vie d'un autre, mais ma disposition est celle d'un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales.
Et des applaudissements dans la salle, Alain Duhamel, vous vouliez une réponse complète, vous relancez François Mitterrand hein, pour vraiment avoir la réponse à cette question. Et vous racontez dans votre livre qu'après cette émission, l'entourage de François Mitterrand s'est précipité sur vous de façon très, très hostile.
Vindicative. Pour me dire, en gros, vous lui avez tendu un piège. Votre dernière question, c'était pour le déstabiliser. Et heureusement, François Mitterrand, que je connaissais très bien, hein, on était même amis, on peut le dire. Et on l'a été jusqu'au bout. François Mitterrand est descendu de la petite estrade où il était. Il m'a mis la main sur l'épaule et il a dit « Je vous remercie d'avoir posé cette question. » Et par la suite, Il m'a dit, j'ai toujours pensé que cette question, ça avait joué un rôle dans le résultat. Et m'a-t-il dit, en particulier dans cette bourgeoisie libérale que vous connaissez si bien, et où peut-être ils ont eu désormais plus de considération pour moi.
Alors, vous venez d'en parler, vous avez de l'amitié pour François oui. Mitterrand. Vous racontez dans ce livre que vous l'avez vu très souvent après sa réélection en 1988, des promenades en Sologne, en Touraine, en Normandie. Et là, vous parliez de quoi ?
On parlait pendant des heures d'abord. Il y avait aussi en général Jean-Pierre Elkabbach, pas toujours, mais en général. On parlait pendant des heures, on parlait énormément de politique alors. Avec une liberté absolue. Il était d'ailleurs étonnant, il était unique pour ça. Il acceptait vraiment qu'on discute comme des amis, dans ces circonstances-là, évidemment, je ne dis pas à la télévision. On parlait énormément de littérature, beaucoup d'histoire. Bon, moi j'adore l'histoire et François Mitterrand aussi. Et donc très souvent, on confrontait nos lectures récentes. Et puis on se disait, mais vous avez lu ça ? Ah, vous n'avez pas lu ça ? Alors chacun se piquait un petit peu au jeu. Quelquefois, il se vexait d'ailleurs. Quelquefois, il me froissait. Mais c'était passionnant. Et je veux dire, c'est inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, des journalistes iraient passer, pas régulièrement, mais assez souvent quand même, une partie de leur samedi en se promenant à pied avec le président, on dirait vendu, horrible, on serait pendu sur la scène publique.
Connivence.
Bon, voilà. Bon, ouais. Moi, en l'occurrence, il savait très bien, parce que d'ailleurs, c'était pas compliqué, il suffisait qu'il me lise, hein. Il savait, oui, qu'il m'écoute. Il savait très bien que je n'étais pas socialiste. Bon, et ça nous a jamais empêchés, au contraire. Je pense que ça nous a même aidés à discuter parce que les bases étaient saines. Chacun savait ce que l'autre pensait et on se connaissait par cœur, on avait fait un livre ensemble. Qui était assez important pour lui. Et on s'est toujours vu chez lui, chez moi, à Paris, en province. Et ça a toujours duré. Et je dois dire qu'après 81, où je n'étais pas le plus populaire chez
Oui, je rappelle quand même que votre nom a été conspué à place de la Bastille le soir de l'élection
absolument,
de François
absolument,
Mitterrand.
Ce que d'ailleurs j'ai toujours trouvé injuste, parce que c'est vrai que j'étais giscardien, parce que je trouvais que le programme de Giscard était meilleur que celui de Mitterrand. D'ailleurs, je n'ai pas changé d'avis. J'étais en même temps tout à fait indépendant, et quand je trouvais que quelque chose n'était pas bien, je le disais. Mais François Mitterrand, alors c'est vrai que j'ai été donc conspué à la Bastille, incontestablement, et François Mitterrand, trois jours après, m'a téléphoné pour me dire bah, « Naturellement, nos relations ne vont pas changer, on va continuer à se voir », et le fait est que c'est ce qui s'est passé.
Chroniqueur à la radio, bien sûr, la télévision, alors après Carte sur table, il y a une autre émission très importante, « L'heure de vérité », c'est vous qui avez inventé la formule de cette émission.
Oui, c'est la seule chose que j'ai vraiment inventée, parce que j'ai fondé aussi avec Carrérou et Moujotte le club de la presse, mais disons qu'on était directement inspiré par l'équivalent américain.
Mais alors, qu'est-ce qui était nouveau dans l'heure de vérité ?
Dans l'heure de vérité, l'idée que j'avais eue, je ne dis pas que c'était génial, hein, mais c'était trois un présentateur, qui était François-Henri de Virieux, excellent présentateur d'ailleurs, et puis trois journalistes de sensibilité, de formation, de trajectoire, de spécialités différentes, qui interrogeaient l'invité l'un après l'autre. D'une part, ça casser le rythme habituel. D'autre part, ça entraînait évidemment une forme de concurrence entre les journalistes. Donc chacun essayait de faire un petit peu mieux que l'autre, un peu plus que l'autre. Et ça a fait une émission qui, d'abord, est l'émission politique qui a duré le plus longtemps sous la même forme, c'est-à-dire 12 ans. Bon, et voilà, qui a joué son rôle. Et où on a reçu à la fois tout ce qui comptait dans le monde politique et au-delà, d'ailleurs, culturel, économique, etc., sociologique même.
Alain Duhamel, c'est quoi une interview politique réussie ?
Une interview politique réussie, c'est une interview dans laquelle on sent une véritable tension dans l'interrogation entre l'invité et l'invitant, et d'où ressort non seulement la personnalité de l'invité, mais des éléments d'information ou d'explication nouveaux. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, et il faut que ce soit sous une forme de pression pour que ça sorte.
Une pause musicale, Alain Duhamel, dans cette émission avec Françoise Hardy sur son album 2018 Personne d'autre. On va écouter à cache-cache Françoise Hardy, toujours formidable depuis les années 60, un peu comme vous, Alain Duhamel.
Malgré moi, je joue tout contre eux.
François Hardy.
Pierre Veil. Une semaine en France.
Avec notre invité cette semaine, Alain Duhamel, qui publie aux éditions de l'Observatoire un livre de souvenirs, journal d'un observateur. Dans ce livre, Alain Duhamel, on découvre que vous êtes peut-être parfois un peu trop dans l'ancien monde politique. Les réseaux sociaux vont vous piéger durant la campagne de 2007. Vous le racontez, hein, on vous a enregistré à votre insu lors d'une conférence à Sciences Po Paris. Et là, vous avez proclamé votre soutien à François Bayrou. Et là,
alors, je ne l'ai pas proclamé. En réalité, je faisais un débat contradictoire avec Marielle de Sarnez. Je critiquais la campagne européenne de François Bayrou, mais j'ai glissé. Mais je voterai quand même pour lui parce que c'est le plus européen. C'est vraiment ça. Et alors effectivement, ça a déclenché un cataclysme.
Les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un espace dans lequel on peut quand même trouver ce qui se passe dans la société, les inquiétudes, les frustrations, les revendications, même s'il y a, bien sûr, aussi n'importe quoi?
Écoutez, d'abord, je considère que c'est totalement irréversible, donc que c'est une dimension qui est nouvelle, hein, qui est essentielle même, et qui de toute façon ne peut que se développer. Ensuite, je ne nie évidemment pas que ça soit un lieu d'expression démocratique nouveau, parce que c'est la réalité. Mais je suis extrêmement critique, notamment vis-à-vis de tous ceux qui s'expriment de façon anonyme. Parce que l'anonymat, ça mène à la délation, systématiquement. Ça mène à la calomnie, ça mène au fantasme, ça mène à un complotisme obsessionnel. Et donc, je trouve à la fois que les réseaux sociaux, c'est une chance supplémentaire et c'est un risque nouveau, les deux. Et la chance, je pense qu'elle se poursuivra, et les risques, je pense qu'ils sont extrêmement difficiles à combattre.
Votre livre, c'est une histoire de la Ve République et aussi une galerie de portraits. Jacques Chirac, la présidence de Jacques Chirac. Une fois de plus, Alain Duhamel, vous êtes en première ligne à la télévision. Une interview de Jacques Chirac, président, en octobre 1995, au cours de laquelle Jacques Chirac, devant vous, doit admettre qu'il ne pourra pas tenir ses promesses électorales. Grand moment de télévision.
Oui, alors on était en tête-à-tête, là, pour le coup. C'était une émission où j'étais seul en face du président de la République pendant une heure, et où parce que les choses étaient très claires. L'objectif de l'émission, c'était que Jacques Chirac explique et justifie et légitime le fait qu'il allait mettre en œuvre une politique opposée à celle qu'il avait, 6 mois avant seulement, annoncée pendant la campagne. Et si c'était moi qui l'interrogeais, en dehors du fait qu'il me connaissait bien, c'est parce que moi, j'avais critiqué ses propositions pendant sa campagne. Et donc, disons que ça rendait les choses plus vraisemblables, comme ça, quelqu'un qui l'avait critiqué, qui l'interrogeait. Et je dois dire que pour lui, c'était une émission extraordinairement difficile, puisque, au fond, il reconnaissait que c'est Balladur qui avait raison. Donc, ça ne pouvait pas lui faire plaisir. Mais qu'il a été très courageux, parce qu'il a vraiment, alors ça c'est son bon côté, il a assumé, hein, il n'a pas biaisé, il a reconnu que, bah oui, ce qu'il aurait voulu faire, il ne pouvait pas le faire, qu'il pensait que la priorité c'était la relance sociale et que la priorité ça allait être budgétaire pour qu'on puisse entrer dans l'euro. Bon, c'était vraiment un moment historique.
Hein. Alain Duhamel, c'est quoi pour vous un grand homme politique ?
Ah, alors moi je fais une grande différence entre le grand homme, l'homme d'État et l'homme politique. L'homme politique, on en a toujours, disons, de niveau correct, une trentaine. L'homme d'État, quand on en a un ou deux en même temps, c'est prodigieux. Et le grand homme, c'est exceptionnel. Le grand homme, c'est De Gaulle.
À propos de François Hollande, vous en parlez dans ce livre. Alors, vous dénoncez son contresens politique initial qui fut sa tentative de présidence normale. Pourquoi ?
Ah ben ça, je l'ai pensé alors dès qu'il en a parlé. Ouais. Parce que
vous avez une formule formidable dans le livre. Il gouverne à travers les persiennes. C'est très beau ça.
Mais c'est comme
c'est
ça.
C'est méchant.
Oui, mais en même temps, je l'aime beaucoup. Hein. J'étais pas toujours d'accord. Encore que j'ai trouvé que la fin de sa politique était... dès qu'il a choisi la politique de l'offre, j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Bon, son problème, c'est que il s'est trompé sur ce qu'il devait incarner. Il avait des aptitudes, il avait une culture, contrairement à ce qu'on a souvent dit. Mais il a considéré qu'il était plus démocratique de se présenter comme un homme politique ordinaire et pas comme un monarque élu. Et je pense que c'est le contraire de l'esprit de la Ve République et le contraire de ce que doit être la Ve République. Je pense que la chance de la Ve République, c'est d'avoir des monarques élus. Alors, il vaut mieux qu'ils soient bons, ces monarques. Mais d'avoir des monarques élus, c'est-à-dire ce privilège formidable par rapport aux autres démocraties, qui est que le président peut mettre en œuvre les décisions qu'il a envie de prendre. Alors, vous me direz, elles sont pas toujours bonnes. Ben non, elles sont pas toujours bonnes. Mais la pire des choses, c'est comme sous la 3e ou la 4e République, de ne pas avoir les moyens de prendre ses décisions.
Vous écrivez, les Français ont besoin d'admirer le chef de l'État pour mieux le guillotiner ensuite.
Ah ben écoutez, c'est ce qui se passe.
Oui,
non,
c'est vrai. Hein. Je pense à Emmanuel Macron.
Oui, c'est ce qui se passe. Penser, c'est ouais. Ce qui se passe et je pense que maintenant, c'est ce qui se passera pour tous ses successeurs. Je pense qu'aucun président ne sera populaire au-delà d'une année. Je crois que l'accélération du temps politique, les pressions des métamorphoses incroyables qu'on vit quand même, vous vous rendez compte, enfin d'ailleurs vous vous en rendez compte, mais que en 10 ans, le monde se métamorphose complètement. Donc les pressions, les contradictions, les sacrifices sont inévitables. Et que dans ces conditions, on ne peut pas être populaire. Et alors moi j'ai sur Macron une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, c'est ma théorie. Je pense que c'est le premier président qui appliquera les réformes qu'il a envie d'appliquer, quitte à se faire battre. C'est-à-dire qui préférera ses réformes à sa réélection. Alors si je dis ça, je suis persuadé, d'abord il ne sera peut-être pas content du tout, et il pensera peut-être que je me trompe complètement, et d'autre part, il y a des gens qui vont se désespérer en disant « Mais alors s'il continue à faire ses réformes comme aujourd'hui, ça va être une catastrophe ». Je crois que il tient d'abord à faire ce qu'il a dit, parce qu'il pense que c'est ce qui est le mieux. À juste titre ou pas, on verra au résultat.
Alain Duhamel, comme tous les vendredis dans Une semaine en France, l'actualité optimiste, positive, captée par le micro de Sandrine Houdin dans Les Bonnes Ondes. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, une web radio faite par des sans-abri pour des sans-abri. C'est nouveau, c'est sans précédent. Vous avez assisté à la naissance de cette radio cette semaine à Paris.
Alors, elle cherche encore son nom, Radio La Cloche, du nom de l'association qui a lancé l'idée et qui l'héberge pour ses débuts dans ses locaux, Radio Bitume. Radio Carton, à la limite peu importe, ils ont le temps de réfléchir. L'urgence pour la petite bande des sans domicile fixe, c'est de se former aux techniques de base de la radio pour être au plus vite 100% autonome. Le contenu des émissions, le programme musical, le choix des invités, c'est eux qui vont tout décider, c'est vraiment leur radio.
Sandrine, vous parlez d'invités, ce sera qui? D'autres sans-abri, j'imagine?
Alors bien sûr, le studio sera mobile, il va s'installer dans les centres d'hébergement d'urgence, dans la rue, dans les parcs, dans les squares, sur les trottoirs, mais seront invités aussi la boulangère du coin, des élus, des chefs d'entreprise. L'intérêt, c'est de débattre, montrer aux auditeurs que ce n'est pas parce qu'on a perdu son toit, qu'on ne lit pas, qu'on ne s'informe pas, qu'on est con, comme dit l'un d'eux, et qu'on n'a rien à dire.
Sandrine, direction les locaux de l'association La Cloche, où la radio a commencé à émettre cette semaine.
On essaie, on y va, on fait une petite répète. Radio Bitume.
Des personnes sans abri prennent la parole.
Waouh. Bon bah nickel. Chacun prend un micro et on teste.
Allô, allô.
Test
allô,
de micro, allô. Branchement des câbles, répétition du jingle. Gilles, Bruno, Didier, Momo prennent très au sérieux leur radio.
Ah ouais, carrément, ouais.
Parle.
Momo, comment ça va?
Il marche pas. Peut-être qu'on a inversé avec le bleu.
Et lui, c'est Antoine. Il est journaliste professionnel. Il est venu pour les aider à démarrer. Mais attention, dit-il, pas question de jouer au prof.
Il ne faut pas leur imposer les choses. En fait, on est juste là pour permettre que les choses se passent. Par exemple, pour le jingle, j'aurais dit on va faire un jingle. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui a dit, bah, je sais pas, on peut faire Tidada. Donc moi, j'ai dit, ah oui, Tidada, pas mal. Ils sont vraiment capables de faire les choses.
Et les micros, donc, on les branche là, comme ça?
C'est ça.
Ah, bah voilà, attends. C'est bon.
Tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Pause clope avant le direct.
Pour une fois, on a la parole, on peut parler. Quand on est à la rue, on a l'impression de ne pas être entendu, quoi. C'est tout juste si on est vu, quoi. C'est tout. Les gens passent à côté de nous, on compte pas plus que le poteau que là, quoi. On passe, voilà, on n'existe pas pour eux.
Cette radio, vous êtes en train de me dire, est une manière d'exister, Gilles.
Voilà, c'est ça, on peut s'exprimer, on peut parler, enfin, on a la parole.
Si on n'a pas de la radio, malheureusement, on dirait qu'on est un petit peu abandonné. On marche dans la rue, on va avec notre sac, les gens, ils tournent le dos. Si il y a 10 gens qui nous écoutent, on l'oublie carrément le froid.
Si on vous écoute, ouais. Vous oubliez le froid.
Oui, exactement.
Je peux vous demander où vous dormez?
Bah, un peu partout, hein, dans les squares. Dans...
Les squares?
Ouais.
Laura Gruarin est à l'initiative de cette radio.
Au-delà de l'aide matérielle, pour agir dans la lutte contre la grande exclusion, il faut aussi permettre aux personnes de prendre la parole, de s'exprimer. Par exemple, Gilles, qui adore la littérature, pourra parler littérature avec sa voisine, habitante du 11e. L'idée, c'est qu'en fait, ce soit vraiment un outil d'inclusion, créer du lien social, sortir de l'entre-soi, changer le regard porté sur le monde de la rue. Et en fait, ce qu'on va essayer de montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément des différences entre ces types de personnes, mais plutôt montrer les ressemblances et que ce soit les personnes sans domicile qui se retrouvent à inviter, à former, que par exemple les gens qui vont venir à la radio, ils vont dire bah, merci beaucoup de m'avoir invité, merci de m'avoir appris à utiliser un micro. Et ça, bah, en fait, c'est une manière de reprendre confiance en eux, de se sentir utile, de se sentir reconnu à travers le regard des autres. Ça peut vraiment apporter beaucoup à ces personnes.
Vous avez envie d'aborder quoi comme thème de discussion à vos émissions?
Mon métier, la boucherie, sur le théâtre, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma. Je pense que c'est bien de partager avec les auditeurs ce qu'on préfère, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.
En fait, vous avez envie d'apprendre des choses à vos auditeurs?
Bien sûr, exactement.
Oh bah oui, ça c'est génial. Oui, ça c'est extraordinaire. Quand on a la rue, on n'a pas la télé, le seul moyen qu'on a pour se tenir informé en général, c'est la radio. À part sur rien, faire rien, c'est encore mieux, quoi. C'est le top, quoi. On n'écoute plus le poste, on parle dans le poste. Ça c'est génial, oui.
Vous avez tous la banane, là.
Ah bah, y a intérêt, oui.
3, 2, 1, go.
Et c'est parti.
Radio Bitume.
Je me présente, moi c'est Bruno. Je suis entouré de Didier, Momo, Gilles. Il est à peu près 14h et nous allons poser quelques questions à nos deux invités. Il y a Valérie pour Lyon. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et Mathilde pour Bordeaux.
Voilà, et pour les écouter, rendez-vous sur la page Facebook de La Cloche pour le démarrage. Pour l'instant, il se limite à tous les premiers mardis du mois. www.lacloche.org, les bonnes ondes, Sandrine Houdin. Alain Duhamel est l'invité d'une semaine en France, son journal de souvenirs, journal d'un observateur. Alain Duhamel, alors, la retraite, vous en parlez dans ce livre et vous écrivez que la retraite, c'est une pénitence
pour moi.
Oui.
Je dis pas ça pour les autres.
Mais pour vous.
Ah, oui. Je pense que pour tous ceux qui ont exercé un métier difficile, la retraite, c'est une délivrance. Mais pour moi, c'est une pénitence parce que je trouve que nous faisons le même métier l'un et l'autre, que c'est le métier le plus stimulant du monde, le plus excitant, celui qui se renouvelle par principe tous les jours, avec des personnages différents, des sujets différents, des problèmes différents, quelquefois des solutions, et que c'est tellement passionnant que l'idée de me mettre dans un fauteuil, même si c'est pour écouter de la bonne musique ou pour regarder une émission intelligente à la télévision, franchement, ça c'est 10 fois moins intéressant, 20 fois moins intéressant. Donc voilà, je dis les choses comme je les ressens.
On vous a reproché parfois votre modération, Alain Duhamel. C'est un modéré et c'est vrai que vous avez toujours été souriant face à tous les hommes politiques. Peut-être je vous ai senti, quand je vous voyais à la télévision, je vous ai vu souvent tendu face à Jean-Marie Le Pen.
Bah oui, ça je pourrais dire que ce soit la tasse de thé, c'est assez bien clair. En même temps, j'essayais de demeurer courtois et de l'interroger comme j'interroge les autres. Et d'ailleurs, quand je l'interrogeais, il n'a pas fait d'esclandre, alors que ça, Dieu sait que ça lui est arrivé. Bon, c'est un fait que je suis de tempérament modéré. Bon, d'abord, je pense qu'il y a une bonne partie des Français qui sont de tempérament modéré. Ensuite, je pense que être modéré pour un journaliste, c'est beaucoup plus difficile que d'être un polémique ou que d'être un excité. Je veux dire, si vous voulez vraiment intéresser les gens en disant, ben voyez, il y a le pour, il y a le contre, il faut être nuancé. Ben là, vous avez 10 nuances de gris. Voilà, moi j'ai jamais cru au blanc et au noir, j'ai cru à la multiplicité des gris et j'ai essayé de le faire comprendre. Alors, c'est en réalité beaucoup plus difficile que de s'emballer et de chevaucher une thèse ou de s'engager derrière un homme. Et donc, je ne regrette pas mon tempérament, même si ça m'agace quelquefois quand les gens croient que c'est par prudence. Parce que c'est pas du tout par prudence, c'est simplement parce que je suis comme ça.
Alain Duhamel, journal d'un observateur aux éditions de l'Observatoire. Je vais vous faire une confidence à la fin de cette émission, Alain Duhamel. Moi, je fais ce métier depuis longtemps. Je n'ai pas votre talent, et de loin, mais vous faites partie de ces journalistes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Pierre Lescure, Yves Mourouzi, Stéphane Paoli, El Kabbach, Bernard Pivot, Pierre Bouteiller. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir ce soir.
Eh ben, merci, c'est gentil.